France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dans les Landes, beau creuset d'initiatives que nous présentons cette semaine en parallèle du jeu des 1000 euros. Voici donc un métier qui risque peut-être de se développer en France, ne serait-ce hélas qu'avec les changements climatiques qui touchent l'Hexagone. J'ai nommé le métier de chamelier. Donc ces chameaux, ces animaux de bât, présentent l'avantage de supporter des températures les plus extrêmes, qu'elles soient négatives ou positives. Donc une association a été créée pour promouvoir cet animal qui peut autant participer au nettoyage de la côte atlantique que participer au débardage ou encore, pourquoi pas, des activités touristiques. Le domaine de la restauration a subi un énorme revers pendant les confinements, avec la nécessité maintenant de reconstituer des équipes de travail et de recruter. Mais le milieu de la cuisine est hélas aussi un milieu marqué par de nombreuses discriminations dont les femmes sont souvent les premières victimes. Pour renouer avec une éthique digne et un management inclusif, un label RSE a été créé, les Mariannes de la cuisine. C'est Stéphanie Langlais, formatrice à l'association Respecte ta cuisine, qui nous en parlera tout à l'heure.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Franck Dohens, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, comment allez-vous?
Ben très bien, mais alors vous m'étonnez, vous êtes chamelier et vous êtes le premier chamelier qui passe dans les carnets de campagne.
Ah ben ça c'est tout à mon honneur alors, hein.
Comment devient-on chamelier?
Déjà, je pense qu'il faut avoir une passion par rapport à tout ça, parce que c'est pas quand même quelque chose qui s'improvise, hein, surtout en France. J'ai été formé, mais après avoir pris mon premier camélidé seulement, hein, je n'ai pas de connaissances dans le monde équin, donc j'ai été contraint d'apprendre sur le tas, étant donné qu'il n'y a pas de structure en France qui permette les formations. Bon, il se trouve aussi que j'ai quand même participé à une caravane de sel en Afrique, hein, sur la zone de Djibouti, Éthiopie. Ensuite, en France, j'ai eu droit à une petite formation de quelques jours qui m'a permis non seulement de me débourrer, mais aussi de débourrer l'animal, en compagnie donc de Coralie Lemeur, hein, qui est une éducatrice camelin.
Et donc, vous collectez les déchets sur les plages landaises avec vos dromadaires.
Voilà, tout à fait. Donc on organise des journées de collecte et de sensibilisation. L'animal est équipé de sacs de bât, hein, donc pour porter tout ça. Ça nous permet d'aller toujours un petit peu plus loin pour aller chercher toujours plus de plastique. À chaque voyage que fait l'animal, on arrive à remonter environ 0,8 mètre cube de déchets plastiques et de cordage.
Et pourquoi le chameau particulièrement? Alors, je vais dire, c'est ni le chameau ni le dromadaire, c'est un métissage des deux qui s'appelle le turcoman.
Le turcoman est un animal que l'on utilise généralement en Asie centrale, donc pour d'une part sa capacité de bât, mais aussi ses résistances aux températures positives et négatives.
Il peut supporter jusqu'à moins 40 d'un côté, plus 50 de l'autre.
Ah oui, 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 à peu près, hein. Donc c'est les températures que l'on peut retrouver en Mongolie et puis les températures que l'on peut retrouver dans le Sahara. Et de ce fait, le turcoman peut gagner et a une agilité qui est à peu près similaire à celle du dromadaire.
Alors je lis qu'en 1827, Antoine de Sauvage, maire d'Andernos, avait introduit des dromadaires pour effectuer des travaux agricoles et forestiers. C'est un juste retour que vous proposez aujourd'hui.
Tout à fait. Donc voilà pourquoi aussi on a choisi de mener du coup cette expérience avec des grands camélidés. Pour revenir, puisque nous sommes ici basés donc sur les Landes, hein, on travaille le long du littoral qu'on appelle en fait la Côte d'Argent. Et le dromadaire a été donc utilisé dans les années 1800 dans le cadre du mécanisme agro-pastoral. Il a permis de désenclaver les Landes, qui étaient à l'époque une zone inondable, hein, c'était donc des marécages. Et ils utilisaient donc le chameau, le dromadaire. Je dis le chameau, hein, oui, parce que c'est le terme générique un petit peu pour les deux espèces. ça, voilà, pour le, par rapport au transport, par rapport au débardage, pour la fertilisation des sols, et transporter aussi de l'acier le long de la côte entre Biarritz et Bordeaux.
Vous préfigurez le décor de demain avec le réchauffement climatique? Peut-être que nous aurons de plus en plus de spécimens de dromadaires, chameaux ou turcomans en France.
Alors, la population de grands camélidés en France est en augmentation. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 grands camélidés tout confondus sur le territoire français, ce qui était bien plus rare à une époque. Mais effectivement, le mythe autour du dromadaire est en train de tomber. Mmh. Les caractéristiques climatiques permettent tout à fait à ces animaux de s'adapter en France, puisque, quoi qu'il en soit, si on prend par exemple des températures dans le désert, elles peuvent descendre dans le négatif. Donc en France, en fait, ces animaux ne vont pas souffrir de froid, ils ne vont pas souffrir non plus de la chaleur. Donc rien ne les empêche, effectivement, de se développer sur notre territoire.
Et pour la petite histoire qui est la vôtre, Franck, j'étais en train de me dire, Doens, avec ses origines flamandes, c'est un peu l'histoire d'un Hollandais devenu landais.
Ah oui, tout à fait. Bon, ben, je suis plutôt dans la basse lande.
Mais... Oui, bon.
Mais on aime bien, effectivement, gravir les dunes et prendre de l'altitude. Donc, pourquoi pas, oui.
Camel, trait d'union, idée au pluriel, .fr, Camel, l'idée de l'Atlantique pour la page Facebook. Merci Franck.
Merci Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Des nouvelles en provenance des Pays de la Loire. C'est Bruno, maraîcher des arts, comme il se définit, qui nous apporte des informations sur une AMAP culturelle. C'est pas la première fois qu'on en parle, de ces AMAP culturelles. Et elle est le fruit d'un collectif d'artistes qui s'est constitué à cette période de blocage sous le nom, pendant le confinement, de « Ouvrir l'horizon », ne voulant pas perdre le lien avec le public, souhaitant conserver une activité. Ce collectif a conçu donc des paniers artistiques. Il s'agit de formes courtes de spectacles conçus spécifiquement à cette occasion, qui réunissent deux ou trois artistes qui n'avaient jamais collaboré auparavant. Alors, il ne s'agit pas d'une improvisation ou d'une création spontanée, mais d'un spectacle qui exige des répétitions. Les contenus peuvent relever de la musique, de la danse, du théâtre, l'audiovisuel ou du cirque. Et comme pour les paniers de légumes des AMAP, les financeurs, les accueillants, le public, qui ne connaissent pas le contenu précis des paniers, peuvent commander un lot de 5 représentations ou de 10 ou de 15. Le coût est calculé en fonction du type de panier. Il s'adresse entre autres aux collectivités, aux établissements culturels et aux associations. Et du coup, l'expérience se poursuit. Elle risque même d'étendre sa toile. Allez voir le site, c'est ouvrirlhorizon.fr. Stéphanie Langlais, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques jours, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai parlé de cette association pour laquelle vous travaillez en tant que formatrice, Respecte ta cuisine, récemment créée pour une cuisine plus solidaire, plus inclusive. Et quand je dis ça, évidemment, dans le cadre de cette journée du 8 mars, on va expliquer ce que vous êtes en train d'élaborer et que vous avez commencé à mettre au point. Il y a la discrimination dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie. Une discrimination qui est vraiment importante entre les genres.
Alors, il n'y a pas que la discrimination au sein de l'association, mais effectivement, pour la journée du 8 mars, et c'est à cette date-là qu'a été créée l'association l'année dernière, et c'est à cette date-là aussi que le label a été lancé. Mmh. Donc la discrimination, la plus grosse partie discriminatoire dont on parle beaucoup en ce moment, c'est effectivement quand on parle de la parité femmes-hommes, et donc on inverse volontairement les deux termes, parce qu'il y a quand même 52% d'étudiantes en école hôtelière, et au bout, elles sont que 2 à 3% arrivées à des postes de chef. Alors, la discrimination, nous, on l'étend aussi à un sujet qui est quand même sur la table et qui fait partie des priorités du quinquennat, qui est aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est un milieu que je connais, et Dieu sait que l'intégration de ces personnes rayonne sur une équipe autour de l'empathie, autour de la bienveillance. Donc, parité femmes-hommes, bien évidemment, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'inclusion des minorités ethniques. on les retrouve souvent en des postes de plonge ou de commis, mais Dieu merci, il y a des représentants dans le milieu des chefs aujourd'hui qui montrent toute personne peut évoluer dans une échelle et ouvre des formations fondamentales pour arriver à des équivalents au sein de ce secteur. Et puis, comme on se réfère aussi beaucoup à la loi, hein, tout simplement dans les discours qu'on peut déployer, bah, y a 20 critères illégitimes de discrimination, en gros, hein, soulevés par le code pénal.
Vu la profusion de, on dit à peu près, plus de 100 000 emplois qui sont encore vacants, vu cette étendue, est-ce qu'on peut imaginer, suivre et régler vraiment une solidarité, une méthode inclusive dans l'emploi, dans le milieu de la restauration? Parce que là, on a besoin tout de suite, en urgence, de nouvelles mains.
On n'a pas le choix. C'est-à-dire que le secteur de la restauration n'a pas le choix que de changer à un moment donné un dispositif sociétal au sein de sa structure pour pouvoir faire appel à effectivement peut-être d'autres profils auxquels il était habitué à faire appel précédemment. Mmh. Et il y a presque même jusqu'à 180 000 emplois à pourvoir. Donc, qui concerne la restauration, sa réputation en termes de conditions de travail, en termes de rémunération, évidemment, ça empêche de recruter, forcément. Nous, on a un pilier en face qui ne va pas sans ce label et cet accompagnement qui est physique, hein, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on reste pendant plusieurs mois, on accompagne un restaurant dans la vue de cette labellisation, mais il y a un accompagnement physique qui est fait avec eux, et évidemment non pas contre eux, parce que l'objectif au bout, c'est le recrutement. Ouais. Fondamentalement, c'est le recrutement.
Et on n'a pas cité, Stéphanie, excusez-moi, on n'a pas cité quand même le label.
C'est Marianne de la cuisine.
Voilà, la Marianne de la cuisine.
Marianne de la cuisine, la Marianne de la cuisine. Il s'adresse au secteur de la restauration, il s'adresse aux étudiants de l'hôtellerie-restauration. Parce qu'en face des employeurs, il faut des recrutés. Donc on fait beaucoup de prévention, notamment des violences auprès de ce public qui craint, parce que il y a beaucoup de dépôts, des ambiances qu'il peut y avoir dans certains restaurants. Donc ils ont peur parfois de finalement se retrouver en cuisine ou en salle. Et l'idée au bout, c'est quoi? C'est de mettre en face des recruteurs avec des recrutés, que chacun sache là où il va. Donc un restaurant qui se fait au bout labelliser Marianne de la cuisine, il peut se faire valoir de ses bonnes pratiques et d'accueillir bien mieux que celui qui a mauvaise réputation ses futurs recrutés. On peut dire que c'est un label RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est le premier qui appuie vraiment tout ce qui concerne l'aspect humain au sein de ce secteur-là. La restauration n'aura pas d'autre choix que de muter par rapport à ces pratiques. Et il faut quand même rappeler qu'à l'origine, si on fait référence à Auguste Escoffier, qui était l'ambassadeur de la gastronomie française dans le monde, c'est lui qui a créé les brigades, il leur demandait de ne pas crier. C'est un humaniste. Donc on veut se rapprocher de ce fonctionnement-là.
Ça s'appelle...
Les critères du label, je les rappelle juste, hein, il y a donc la prévention des violences, il y a l'inclusion, on a développé le sujet ensemble. Il y a la valorisation du collectif qui passe par toutes les méthodes de management qu'on n'apprend pas dans les écoles hôtelières. Donc ce pan-là est absolument fondamental. Et puis il y a le bien-être au travail. Bien-être au travail qui est un sentiment de sécurité qui passe par bien des choses.
Voilà, Marianne de la cuisine, le premier label RSE du secteur de la restauration, respectetacuisine.com. Merci Stéphanie.
Merci beaucoup Philippe, merci.